Tu peux lui faire tout ce que tu veux, mais ne porte pas atteinte à sa personne. Préserve sa personne. Ukvar be'artilecha. Et déjà, dit Maïmonide, dans un autre passage du livre, du Guide des Égarés, Shituf Shem Nefesh Bitshunenu. Quelle est l'utilisation de ce terme de Nefesh dans notre langue, c'est-à-dire dans la Shana Kodesh en hébreu, Veshehu Ne'emar ala dabar akaya mina adam le'achar mavet. Et que le Nefesh désigne l'être dans chacun qui subsiste après la mort. C'est-à-dire le quelqu'un que je suis, le sujet de mon être, ma personne, et qui n'est pas atteinte par la péripétie de la mort. Vezehu asher en shilton la satan alav. Et c'est cela ce que signifie que le satan n'a aucune souveraineté possible sur l'être profond, le nefesh. Donc, si vous voulez, très, très simplement, nous allons faire une distinction sémantique ou dialectique entre deux manières de désigner la personne humaine, son contenu, ce que j'ai appelé tout à l'heure son avoir, la semaine dernière, son avoir, et son moi, et puis son être, son je, son sujet. Le celui que je suis possède un contenu d'être terrestre, si j'ose dire. Ce contenu d'être terrestre peut être atteint par les épreuves, et il est dans le domaine du Satan. Mais celui que je suis n'est pas aux prises, dans les prises du Satan. Et celui que je suis, le Nefesh, c'est ce qui persiste, même après la mort, dit Maïmonide. Donc vous voyez comment les deux indications se rejoignent. Nous pouvons donc continuer le paragraphe suivant, et où Maïmonide va de façon plus détaillée et mettre en évidence quelles sont les fonctions du Satan. Ve'achar iskarta mashi iskarti, et après avoir compris ce que j'ai cité, Shma et Taimra Moaila Azu, écoute cet enseignement efficace, important, Asher Amru Achamim, que les sages ont enseigné, Asher Yesh Leaniach Alehem Shem Hachamim Behemet. Et de quels sages veut parler Maïmonide? Des sages desquels on peut dire qu'ils sont véritablement sages. Ou Baera Kol Kaché. Cet enseignement qui va être cité éclaire toute difficulté. Vegalta Kol Nistar. Elle a dévoilé tout ce qui était caché. Ou Barera Ropsitretora. Elle a élucidé la majeure partie des secrets de la Torah, Vehi, et voilà de quoi il s'agit, Omram Batalmud, c'est ce que nos sages ont enseigné dans le Talmud, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish a dit, Hu Satan, Hu Yetzerara, Hu Malach Amavet. C'est la même réalité qui est le Satan, tel que nous l'avons défini jusque-là, le Yetzerara, le penchant au mal, le Malach Amavet et l'ange de la mort. C'est-à-dire chaque fois que les textes disent soit Ha-Satan, soit le Yetzerara, soit le Malach Amavet, il s'agit de la même réalité. Donc je reprends, le Satan, l'obstacle, Yetzerara, le penchant au mal, Malach Amavet, l'ange de la mort, c'est donc la même réalité selon cette citation qui nous est donnée au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, et qui se trouve dans la Gemara de Baba Batra. Iné iprin et kolma she'amarnu aprana shelo tikshe arba'a lavana. Cette formule éclaircit, distingue tout ce que nous avons dit de manière parfaite, de manière qu'il n'y a plus aucune difficulté pour celui qui est capable de comprendre. Ve'iné idvaer lecha, et par là il se dévoile à toi, ki al inyan echad be'atzmo mechanim bishlosha shemot halalu. Que c'est le même sujet, la même réalité qui se trouve être désignée, définie par ces trois termes. Veshekol ha-peulot ha-miyuchasot lechol echad me'ele, ha-shlosha, hem kulam peulat dabar echad. Et que tous les comportements qui sont habituellement rattachés à chacune de ces trois réalités, c'est-à-dire le Satan, le Yetzerara et le Malach Amavet, sont toutes peulat dabar echad, l'action d'une même chose. Vekach amru gam chachme Mishnah rishonim, et les sages de la Mishnah, les premiers enseignants de la Mishnah, ont dit aussi, Tana, on enseigne, il y aurait, en parlant de cette réalité qui apparaît dans trois dimensions, celle du Satan, celle du Yetzer Hara, celle du Malach HaMavet, Tana, on enseigne, Yored ou Matae, il descend, c'est-à-dire dans le monde des hommes, et il trompe, il égare. C'est donc la catégorie de la... de, comment dit-on, pitouille, de la séduction qui vient de l'extérieur. Olé ou Mastin, il remonte et il accuse. Notel Reshut, Venotel Neshama, il demande la permission d'enlever la vie, enfin de séparer l'âme du corps. C'est-à-dire, ce sont en réalité trois phénomènes que dans l'expérience habituelle nous distinguons comme différents, séparés, mais qu'en réalité il s'agit de la même fonction. Hine nitbaer lecha, par là tu pourras comprendre que cette réalité, par exemple, c'est telle que David a vu Bemare Anevoa dans une vision de prophétie, Be'et Adeber, au temps de la peste. Ici, le texte se réfère à un récit historique que vous retrouverez dans les citations qui vous sont données, et où David voit un ange au moment où il y a eu une épidémie de peste. Veharbo shelufa beyado netuya al Yerushalayim. Il voit donc un ange avec l'épée dénudée, sortie du fourreau, et tendu vers Jérusalem. Shelo heruhu etze ela lehorot al inyan. On a montré cela à David que pour lui faire comprendre ce sujet, oto ha'inyan atzmo, ce sujet lui-même, hua medubar bo gam bemare anevoa, qui est le même duquel il est parlé dans le récit de la vision qu'ont eu les fils de Yehoshua à Kohen Agadol, de Josué le grand prêtre, lorsque le verset dit « Ve'a Satan omed al yemino le sitno » et que le Satan se tenait à sa droite pour le provoquer, pour le tenter, si vous voulez, pour l'accuser. « Ve'harkar bieri hukom imenu itale » et après, le texte a mis en évidence la distance qu'il y a, c'est-à-dire la différence, la différence qu'il y a entre lui, le Satan, et Dieu lui-même, Beomro, en disant, en mettant dans la bouche de Dieu cette phrase, Igar Hashem Becha HaSatan, que Dieu se mette en colère contre toi, le Satan. Igar Hashem Becha Abocher Birushalayim, et Dieu qui préfère Jérusalem se mettra en colère contre toi. C'est-à-dire, Maïmonide veut mettre en évidence le fait que chaque fois que le texte parle de l'ange vengeur, si vous voulez, ou provocateur, selon le vocabulaire employé dans l'imagerie habituelle de l'angéologie, eh bien, ce Satan est différent de la volonté de Dieu. Et ici, les textes sont choisis de façon très précise. Il y a un danger sur Jérusalem, et ce danger est montré par un ange qui a une épée dénudée dirigée vers Jérusalem, et le texte fait dire au prophète que la colère de Dieu sera contre cet ange. Donc, il ne s'agit pas d'un ange comme les autres anges, cet ange qui est appelé Satan, cet ange qui apparaît au moment des catastrophes, et qui est celui qui a le nom de Malach HaMavet, l'ange de la mort. Mais le fait qu'il y ait Malach HaMavet est contradictoire. Mavet, c'est le contraire de Malach, puisque Malach désigne l'être qui est véhicule d'une des volontés de Dieu, et que Dieu comme créateur est celui qui donne la vie, par conséquent la catégorie de Mavet est contradictoire avec Malach. Et donc le Satan en tant que Malach n'est pas comme les autres, mais qu'il y a une différence de nature, une différence d'essence entre le Satan d'un côté et les autres Malachim. Et que le Satan est appelé au conseil des autres Malachim que lorsque sa fonction d'accusateur public est nécessaire. Alors il apparaît, par exemple, on dira qu'il a une efficacité le jour de Rosh Hashanah, parce qu'il est le jour parce que c'est le jour du jugement, et le jour de Rosh Hashanah, le Satan est au milieu des autres anges. Il est l'accusateur public, celui qui met en évidence tous les doutes que l'on pourrait projeter sur le plaideur, celui de qui le procès est fait. Et vous connaissez en particulier l'explication des kavanot du shofar qui ont été données, qu'une des raisons pour lesquelles le shofar est sonné, c'est pour, si j'ose dire, les Balbel troublaient le Satan pour l'empêcher de prononcer sa plaidoirie d'accusation. On ne peut pas dire plaidoirie, on dit son réquisitoire. Non, c'est pas réquisitoire. Tandis que le jour de Kippour, le Satan n'a aucune force. Je vous rappelle comment cela est indiqué dans les textes. C'est que tous les jours de l'année, après avoir dit la proclamation de souveraineté de Dieu, le verset du Krat Shema, la phrase qui suit, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Ba'ed, c'est-à-dire la reconnaissance de cette souveraineté dans le monde visible, n'est dite qu'à voix basse, sauf le jour de Kippour. Et une des explications qui sont données, vous avez dû remarquer d'ailleurs à l'office du jour de Kippour, déjà le soir, on dit spécialement cette phrase à voix haute. Et une des explications qui sont données, c'est que chaque fois que l'homme dit « Baruch Shem Kebod Malchuto Le'olam Ba'ed », la reconnaissance de la gloire de la souveraineté de Dieu sur le monde, il y a risque de blasphème, parce que l'homme est un être plein de mal, plein de fautes, plein de défauts, et que par conséquent, cet hommage qui est rendu à Dieu est atteint par la qualité de celui qui donne l'hommage. Ne pas dire l'hommage, dit la Gemara, c'est pas possible, mais le dire à voix haute, c'est pas possible, alors on le dit à voix basse. Tandis que le jour de Kippour, tous les hommes ont expié leurs fautes, par conséquent, ont le droit de dire la louange de Dieu sans qu'il n'y ait blasphème. Si vous voulez, l'idée qu'il y a là, c'est que si un être imparfait, parlant d'un monde imparfait, loue le Dieu parfait d'avoir créé ce monde imparfait, il y a blasphème. Donc on ne peut pas dire cette louange à voix haute, sauf le jour où on est dans une situation de perfection. Alors le jour où on est dans la situation de perfection, c'est le jour de Kippour. Et c'est la raison pour laquelle on pourra dire « Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Ba'ed » à voix haute, en particulier le jour de Kippour. Alors vous voyez la différence. Le jour de Rosh Hashanah, on a peur du Satan, parce que c'est le jour de l'expiation. Tandis que le jour de Kippour, on n'a pas peur de lui. Il n'a aucune force. Parce que c'est le jour... Qu'est-ce que je dis ? Non, c'est le jour du jugement, bien sûr, Rosh Hashanah. C'est le Vayhi Hayom du texte de Job lui-même. Tandis que le jour de Kippour, qui est le jour de l'expiation, tout le monde est absolument parfait. Et par conséquent, le Satan n'a aucune emprise, si vous voulez. D'ailleurs, on montre aussi cela d'une autre manière, disons, complémentaire. C'est que la valeur numérique du mot Ha-Satan, c'est 364, alors qu'il y a 365 jours dans l'année. Ça veut dire qu'il a une emprise pendant 364 jours, mais pas le 365e, qui est le jour de Kippour. Et c'est aussi cette même réalité, dit le texte, « Vehu asher ra'a gam Bilaam bemare ha-Nevoua ». Vous vous rappelez, dans l'histoire de Bilaam, que lorsqu'il veut aller au rendez-vous qui lui est donné par les ennemis d'Israël, pour prophétiser une malédiction, c'est-à-dire pour formuler la propagande, dire le mal d'eux, maudire, contre Israël, au nom de Balak, Et en chemin, son ânesse est arrêtée par un ange qui se met en obstacle de nouveau. Et ce terme est employé dans le texte. Vehu asher ra'a gam Bilaam bemare ha-Nevoua baderech, be'et omro lo, hine anochi yatzati le'Satan. Le verset dit, et moi je suis sorti pour faire obstacle. Veda, ki Satan igzar min sato, mea... La racine, c'est Sato, Sata Me'ala Ve'Avar. Le sens de la racine elle-même, c'est dévier. Klomar, She'u Mi'inyan Ha'asara Ve'Arhaka. C'est bien la notion d'obstacle et d'éloignement. Kihu Amaste Mi'derecha Emet Blisafek. C'est lui qui fait dévier du chemin de vérité sans aucun doute. Umarhik bedarke hataya, et il éloigne les créatures du chemin droit par le chemin de l'errance dans le sens de faire une erreur et pas seulement de commettre une erreur et pas seulement errer. ועל עניין זה עצמו נאמר גם כי יצר לב האדם רע מן העולם. C'est-à-dire qu'il y a donc une force dans le monde, et elle est en nous, et qui a pour fonction de, premièrement, de faire obstacle en général. Et dans cette définition qui nous est donnée dans le point précis de l'analyse, de tenter de séduire et de tendre, si vous voulez, à détruire la créature elle-même, à annuler la capacité d'être de chacun. C'est-à-dire, ici, Maïmonide nous fait passer de pas à pas par les trois sens de la citation de la Gemara qu'il avait donnée et les trois fonctions, Satan, Yitzhara, Malach HaMavet. Ken, vous aviez une question à poser ? J'ai dit « Ha Satan », non ? Oui. Parce que nous n'avons pas Satan. Non, vous auriez pu me dire comme objection que l'année juive n'a pas 365 jours. Non, mais vous savez que c'est récapitulé sur 19 ans. C'est l'année solaire. « Ve que varia d'arta » Pirsum Ashkafazu Vetoratenu. Et déjà, tu connais le. Comment dire le. Main Non, Pirsum. C'est pas ce sens-là ici. Non, c'est pas la réputation. Là Non, mais le mot de Pirsum. Oui, c'est le sens, mais le mot de Pirsum. Le fait d'être répandu, d'une connaissance qui est répandue, comment peut-on dire ? Diffusion, publication, oui, c'est ça. Bien, c'est ce sens-là. Ukovar yadata pirsum ashkafazu betoratenu, le fait que cette thèse, cet enseignement, cette théorie, c'est plus que théorie, cette doctrine, est répandue dans notre Torah, Klomar, par exemple, cet enseignement qui dit que l'homme possède Yetzer Tov et Yetzer Har, un Yetzer Tov et un Yetzer Har. Veomram est l'enseignement de nos sages à ce sujet, Bishne Yetzarecha. Je vous dis rapidement de quoi il s'agit dans ce problème. C'est que dans le texte du Kriyat Shema, dans le premier paragraphe, nous avons le verset Ve'afta et Hashem Elokecha, Bechol Lebabecha. Tu aimeras celui qui est ton Dieu, Bechol Lebabecha. De tout ton cœur. Et Rashi cite un enseignement de la Gemara et qui se trouve aussi dans le Midrash qui dit cela signifie tu l'aimeras avec tes deux penchants. Bishnei Yetzarecha, lesquels le Yetzer Tov et le Yetzer Ra. Du point de vue formel, cela vient du fait que le terme qui est employé pour dire cœur par le verset, c'est le mot Levav qui a deux bêtes. Puisque vous savez qu'en hébreu, on peut dire Lev pour dire cœur avec un seul bête. Nous dirons, si vous voulez, c'est le cœur unifié. Mais Levav, avec deux bêtes, renvoie à deux côtés du cœur. C'est-à-dire, si on désigne le cœur par la motivation à agir, eh bien, les deux penchants. Le fait que l'homme est constitué de deux Yetzarim, Yetzer Tov, un penchant au bien, Yetzer Har, un penchant au mal. Et le commandement d'amour qui est indiqué dans le verset, c'est pas seulement avec le penchant au bien, mais aussi avec le penchant au mal. Bon, de façon élémentaire. Et il faut comprendre ce que cela signifie, que cela désigne, la transfiguration, la sublimation des tendances. C'est-à-dire le fait d'aimer avec ce qui me pousse à aimer n'est pas encore de l'ordre de la vertu. Si je suis poussé naturellement à aimer par ma tendance à aimer, il ne s'agit pas d'amour, mais d'inclination. Et la vertu commence lorsque j'aime, au contraire avec la tendance qui me pousse à haïr, par exemple. Et que j'utilise cette force de la motivation de la haine en la transfigurant, en la sublimant, que je l'utilise à un objet positif, que je l'utilise au bien. C'est là que la vertu commence à être effective. Ceci pour une analyse fondamentale des termes mêmes. Ici, le Rav utilise cette citation pour nous dire le Yetzer Tov, dans la fonction qu'il a, et qui vient d'être définie préalablement, la tendance qui me pousse à faire le contraire de ce pourquoi je suis créé. Je crois que pour le comprendre un peu plus profondément, le plus simple est de se référer à la définition que le Rav Ashlag a donnée dans son vocabulaire de ce que c'est que le Yetzer Tov, ce que c'est que le Yetzer Ra. Et cela nous fera déjà avancer encore plus dans la compréhension de cette fonction du Satan. Le Yetzer Ra, c'est défini dans le vocabulaire du Rav Ashlag par Ratzon Lekabel, la volonté de recevoir l'être. Et c'est la volonté de recevoir l'être qui fait mon être de créature. La créature se définissant comme l'être qui reçoit l'être. Je n'existe que dans la mesure où je reçois l'être qui me fait être. Mais la volonté de recevoir l'être est la racine même du penchant au mal. Et c'est donc cette tendance à recevoir l'être qui est le minimum commun de non seulement l'explication, mais de la motivation de toutes les conduites qui peuvent être définies comme mal. Et d'ailleurs, si on fait une analyse de tout ce qui peut être désigné par la loi morale comme violation du bien, le mal, on s'aperçoit que la racine de ce comportement est toujours un appétit de jouissance, à tous les niveaux. Et par conséquent, c'est ma condition de créature qui implique la tendance à recevoir l'être, c'est l'essence même de la créature qui consiste dans cette tendance. Mais c'est cette tendance qui est la tendance au mal. Le fait de vouloir être, c'est cela qui mène au risque de violer la loi, au risque de violer la loi morale. Et par conséquent, d'une certaine manière, la destinée de la créature implique et comporte qu'elle soit faite d'une tendance au mal. Or, l'objectif du Créateur, c'est précisément de confirmer l'être dans le sens du bien. Et le Yetzer Tov, qui nous donne la définition de ce qu'est l'essence du bien, c'est la tendance opposée, c'est la tendance à donner l'être. Ou si vous voulez, pour reprendre les termes plus simples, d'égoïsme ou d'altruisme, on comprend bien que le cœur humain, pris comme définition du centre des motivations du comportement, et dans une dialectique de contradiction, il est par essence motivé par deux tendances morales opposées, contraires, l'une qui est la tendance au bien, vouloir donner, qui est l'altruisme, et l'autre qui est la tendance au mal, vouloir recevoir, qui est l'égoïsme. Et l'objectif de cet enseignement est de nous faire comprendre que bien sûr il faut servir le Créateur par la tendance à donner, c'est-à-dire l'altruisme, et c'est la catégorie de l'imitation du Créateur. C'est par là que j'imite le Créateur qui se définit pour moi comme celui qui m'a donné l'être. Et en donnant l'être à mon tour, j'authentifie l'objectif du Créateur lorsqu'il m'a créé. Il a voulu créer un être vrai. L'être vrai est celui qui donne l'être. Mais pour que j'existe, il faut que je dispose de l'autre tendance qui lui est contradictoire. Pour que je puisse exister comme distinct du Créateur, il faut que je sois celui qui reçoit l'être. Et en étant celui qui reçoit l'être, je me connais comme capable du mal. Je pense que l'analyse est suffisamment précise. Et par conséquent, la vertu ici est définie de façon apparemment paradoxale comme étant mettre au service du Créateur la tendance contraire, c'est-à-dire arriver à subjuguer le Satan, si vous avez bien compris, à faire que le Satan soit au service du Créateur, alors que sa fonction est par définition le contraire. C'est-à-dire, c'est en créant le monde que du monde, le Satan apparaît. Parce que le monde, c'est l'identité. Le Satan, c'est l'identité du monde. Puisque le monde se définit comme étant capacité de recevoir l'être, et que c'est cela la racine du Yetzer Hara. Et donc, le Yetzer Hara, par fonction, doit me rendre mauvais pour que je puisse exister. Peut-être que cette analyse est trop rapide, mais si elle est trop schématique, interrogez-moi tout de suite. C'est-à-dire, pour que la créature puisse exister, il faut qu'elle soit faite capacité de mal. Parce qu'il y a une équivalence à la racine entre recevoir l'être et faire le mal. Parce que recevoir, c'est mal, tant qu'on n'a pas mérité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça me semble important à comprendre. Si on fait l'analyse sincère et attentive de tous les comportements de violation de la loi morale, on s'aperçoit que, fondamentalement, la motivation de ces comportements, c'est cette nécessité pour être d'avoir à recevoir des jouissances. Donner des exemples simples. Le vol. Le vol est mal. Mais je peux être acculé à voler si j'ai faim. C'est pour pouvoir posséder quelque chose dont j'éprouve le manque que je risquerai d'être l'homme acculé à voler. Or, voler, c'est mal. Mais qu'est-ce qu'il y avait à la racine? C'est que le monde est ainsi fait, si j'ose dire, qu'on ne peut pas exister autrement qu'en recevant tout un ensemble de jouissances. Et si on n'en dispose pas, alors on les prend même si on ne les mérite pas. D'une certaine manière, la vie entraîne ce risque de la faute. Les jouissances qui nourrissent la présence de la créature à elle-même, expliquent que la tendance à recevoir l'être a un côté nécessaire. Il est nécessaire que le créateur crée la créature ainsi. Cela ne peut pas être autrement, sinon elle se confond avec le créateur et elle n'existe pas par elle-même. Et pour que la créature existe par elle-même, il faut qu'elle se définisse comme recevant l'être. Mais le fait de se définir comme recevant l'être expose à toutes les violations de la loi morale. Parce que pour recevoir l'être, je suis parfois acculé à le prendre. Et tout ce qui est appelé mal, mentir, tuer, tout, évidemment, tous les comportements du mal ont pour racine le yetzerara, c'est-à-dire la nécessité de se nourrir de jouissance pour être. Et vous voyez donc la contradiction dramatique qu'il y a dans l'être de créature. L'objectif du créateur, c'est de me faire être comme être vrai, être capable de donner l'être. Mais pour que je sois tout court, il faut que je sois tel que je reçoive l'être. Et le fait d'être l'être qui reçoit l'être fait apparaître le Yetzerara, fait apparaître le Satan, fait apparaître le Malach. Si vous voulez, le Yetzerara, Amavet, le Yetzerara en acte, le Yetzerara en fonction, c'est ça le Satan. Et alors, la citation que Maïmonide nous donne ici, Bishnei Yetzarecha, pose un problème extrêmement important que je vais vous poser, si vous voulez, sous forme de question. On vient donc de découvrir que la vertu commence lorsque je fais servir la tendance au mal au bien. Lorsque je fais servir au bien la tendance au mal. Bishnei Yetzarecha, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'aimer avec la tendance à aimer, d'être altruiste avec la tendance à être altruiste. Là, il y a inclination, comportement naturel, il n'y a pas vertu. La vertu commence lorsqu'on fait servir l'énergie d'égoïsme à l'altruisme, pour prendre ce niveau d'exemple. Et à ce moment-là, ce qui vient le chidouche, si vous voulez, du Bishnei Yetzarecha, c'est d'expliquer le service par le Yetzerarar. À ce moment-là, ce qui devient difficile, c'est qu'on nous réclame aussi de servir par le Yetzeratov. Vous avez compris la difficulté? Je reprends l'analyse. Oui, une minute. C'est-à-dire, naturellement, je penserais qu'il est normal, reprenons les termes du verset, « Ve'afta et Hashem Elokecha v'chol levavecha ». Et « levav », ça veut dire « yetzer tov » et « yetzer ra ». Donc, naturellement, spontanément, je penserais qu'il est normal d'aimer Dieu avec la tendance à l'amour. Mais on me dit, non, il faut aussi avec la tendance à la haine. La transformer, la mettre au service de, la subjuguer, la transformer de telle sorte qu'elle soit elle aussi au service du bien. Et à ce moment-là commence la vertu. Mais dès que j'ai compris ce deuxième niveau, le premier devient difficile. Si la vertu, c'est d'aimer Dieu avec le Yetzer Ra, pourquoi on nous demande aussi de l'aimer avec le Yetzer Tov? Vous avez compris la question? Et alors on arrive à un troisième niveau, qui est celui de la Kavana. De l'intention, du fait d'assumer son propre comportement, qui est un niveau encore supérieur de qualité morale. C'est-à-dire, si je laisse aller l'inclination que j'ai en moi, et que c'est naturellement que ma tendance va dans le sens de la vertu, la tendance au bien, que j'ai un tempérament altruiste et que je laisse fonctionner ce tempérament altruiste, eh bien, je peux toujours douter. Est-ce qu'il y a une vertu dans cet altruisme ou est-ce que c'est simplement un comportement de nature? Et si c'est simplement un comportement de nature, il n'y a pas vertu. Il faut donc que je passe à un niveau supplémentaire de kavana, d'assumer ce comportement de nature en tant que vertu. Si vous voulez, dans le premier niveau de l'analyse, le mérite apparaît précisément là où la vertu et la nature sont opposées. Lorsque la vertu et la nature s'opposent, alors il y a mérite. Mais si la vertu va dans le sens de la nature, y a-t-il mérite? Parce qu'on peut toujours se demander si c'est simplement la nature ou s'il y a vraiment vertu. Et c'est la raison pour laquelle il faut assumer par kavana la tendance naturelle et la transformer en vertu. Moi, je vous rappellerai un exemple simple que j'ai l'habitude de donner à ce sujet. C'est une vertu, une mitzvah, de manger du poisson le vendredi soir. Mais pour quelle raison on mange du poisson le vendredi soir? Pour quel taram? Le taram de la mitzvah ou le taram du poisson? C'est-à-dire, d'autre part, c'est bon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est valable au niveau de tous les devoirs, au niveau de toutes les vertus. Quand la nature et la morale vont dans le même sens, il y a safek. Et alors, ça me permet d'ouvrir une parenthèse sur la définition de la sainteté, de la kedusha. Et ça pourra nous permettre de comprendre un certain nombre de problèmes à ce sujet. À partir de ce principe, que lorsque l'exigence de vertu s'oppose à la tendance naturelle, là le mérite apparaît clairement, les fum tzahara agra, que le mérite dépend de l'effort, et l'effort, ça veut dire, donc, c'est le signe qu'il y a conflit entre la tendance naturelle et l'exigence de la vertu. Je pense que c'est clair. Lorsque l'âme me demande quelque chose de différent que ce que me demande le corps, alors j'expérimente l'effort moral et c'est la base, le fondement de la vertu, du mérite. Mais si la loi me demande ce que mon instinct me ferait agir, où est la vertu? Prenez par exemple le cas du mot « ani ».« Ani » qui signifie à la fois « pauvre », situation de nature, existentielle, si vous voulez, pauvre. Et Rani signifie humble. Mais lorsque quelqu'un est Rani, humble, s'il est aussi Rani, pauvre, on pourra toujours se demander s'il n'est pas que Rani, pauvre. C'est l'ambiguïté du mot humble. C'est pourquoi la Gemara dit l'humilité n'est évidente que chez quelqu'un qui est riche. Parce que si c'est l'humilité de quelqu'un qui est pauvre, on peut toujours se demander si son humilité n'est pas une situation de nature, et non pas la vertu d'humilité. Je pense que l'exemple est suffisamment clair. Alors c'est la raison pour laquelle la première définition de la conduite de sainteté est toujours une définition négative. Mais chaque fois que le commentaire veut expliquer le terme de Kedusha ou de Kadosh, comme par exemple dans le verset de Vaikra, « Kedoshim tiyu ki kadosh ani »,« Vous serez kedoshim parce que je suis kadosh », dit le verset. Eh bien, tout de suite, le commentaire, vous vérifierez déjà dans Rashi, qui cite le sifré à ce sujet, « Kedoshim », ça veut dire « perushim », attitude de séparation. Bien entendu, de séparation de l'être de nature. Si vous voulez, la conscience morale, c'est la lutte contre le mal qu'il y a dans le monde. Mais la conscience de sainteté, c'est la lutte contre la nature elle-même, avec son bien et son mal. C'est d'abord, à ce premier niveau de définition, une rupture avec l'être de nature et une lutte contre l'être de nature. C'est donc le premier niveau de définition de la sainteté. Et chaque fois que nous réfléchissons à ce que ce terme désigne dans la culture contemporaine, nous apercevons qu'il y a là un problème qui demande à être éclairci. Cette analogie qu'il y a entre la définition prishut, ça veut dire se séparer du monde créé, et la limite de la prishut, c'est finalement l'ascétisme, et d'autre part, le caractère résolument ascétique, négatif, de la conduite de sainteté telle qu'elle est définie dans la culture occidentale. Et il y a toujours une gêne pour... Et il y a toujours une gêne pour la conscience juive devant ce problème et devant cette analogie. Parce que, si vous voulez, dans une conception dualiste, une telle conception de la sainteté est tout à fait cohérente. Si je considère qu'il y a dualisme, qu'il y a le principe de l'être de nature d'un côté et le principe de l'être spirituel, de sainteté au-delà ou de notre côté, qu'il y a deux souverainetés. Celle du bien qui mène à la sainteté et celle du mal qui a sa racine dans l'être de nature, si c'est dans une atmosphère de culture dualiste, tout va bien. Et on peut se contenter de la définition négative. Négative n'est pas exactement le mot que je cherche, schlilit. Ça peut être dit négative, mais ce n'est pas exactement le sens. Privative, oui. De la périchoute, de la sainteté dans le premier sens. Le parti pris de rompre avec l'être de nature. Mais dans le monothéisme biblique, cela fait problème. Il est impossible de rester à ce stade. Parce que ce monde auquel on s'oppose dans l'attitude de sainteté ainsi définie, c'est Dieu qui l'a créé. C'est le même Dieu qui propose le projet de sainteté qui a créé l'être de nature contre lequel il faudrait s'opposer pour réaliser le projet de sainteté. Est-ce que vous comprenez que c'est le même problème ? Et c'est la raison pour laquelle il faut aborder un deuxième niveau de la définition de la sainteté, et qui est la sainteté positive, c'est-à-dire la sainteté conciliée avec l'être de nature, la sainteté qui procède du naturel lui-même. Et c'est en particulier dans Orot HaKodesh, qui est une des œuvres principales du Rav Kook, que vous trouverez cet enseignement, c'est qu'il est bien évident qu'il y a un premier stade de la sainteté, qui consiste dans le parti pris délibéré de s'opposer à l'être de nature. C'est, si vous voulez, le Yetzer Tov, lorsqu'il est tout seul. Et c'est la sainteté telle que nous la connaissons habituellement. On appellera le Kodesh Aragil, la sainteté habituelle. Selon le Rav, elle a été surtout connue dans la vie dans la Galoute. Je vais essayer de vous décrire de quoi il s'agit, mais je pense que vous avez déjà compris. Je vais peut-être un peu caricaturer cela, mais c'est pour comprendre. C'est la sainteté habillée en noir, la sainteté en deuil, la sainteté crispée, la sainteté en colère, la sainteté triste. Je pense que c'est clair. Parce qu'elle est obligée, presque par définition, de s'opposer à la vie, puisqu'elle est encore... à ce premier stade de l'attitude privative, restrictive de la périchoute. Tandis qu'il y a un deuxième niveau de la sainteté, et qu'il faudra donc définir par la sainteté positive, et c'est celle qui procède de l'être de nature lui-même. Et tant qu'on n'arrive pas à ce stade, on n'est pas encore à l'intérieur du monothéisme biblique. Ça signifie que le caractère défiguré de l'être de nature ne peut être considéré que comme provisoire, et que la promesse de la sainteté doit aller jusqu'à la sainteté positive. La conclusion que le Rav a donnée dans son analyse dans Orot HaKodesh consiste à dire ceci: il est nécessaire, pendant tout le courant de l'histoire, lorsque on explore le chemin des vertus, une après l'autre, il est nécessaire qu'il y ait une sorte d'avant-garde qui explore des chemins de la vertu pour l'ensemble, pour la communauté et à la limite pour l'universel humain. Et par conséquent, inévitablement, ceux qui sont en travail spécialisé, si j'ose dire, de déchiffrement et de défrichement d'un chemin non encore exploré dans une dimension particulière de la vertu, quittent la voie normale de la vertu dans le sens positif, qui est l'unité des valeurs, et l'unité des valeurs impliquant la conciliation entre la conscience morale et l'être de nature. C'est tout le problème de ces Shnei Yetzarim qu'il faut unifier. Et par conséquent, apparaissent des grands hommes, des héros de la vertu exceptionnelle, qui poussent à la limite, de façon extrémiste, si vous voulez, la spécialisation héroïque dans telle ou telle valeur, dans telle ou telle vertu en particulier. Est-ce que c'est clair ce que je désigne là? Et le Rav les appelle des Gdolim, des Yechidim, des Hanakim, ce sont des géants de telle ou telle vertu. Mais il dit l'erreur, c'est de les imiter. Parce que leur tafkid, leur fonction, leur travail, ils sont en, je ne sais pas comment dire ça, ils sont en service commandé. Ils sont en service commandé pour explorer pour les autres telle vertu, je ne veux pas dire nouvelle, le projet des vertus nous est donné depuis le projet de la création du monde, mais telle vertu non encore expérimentée. Alors ils apparaissent comme en service commandé. Et il ne faut pas les prendre pour modèle, parce qu'ils sont des guides. Il ne faut pas les imiter, il faut les suivre. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Parce que les imiter, c'est tomber précisément dans ce piège de la caricature, de la caricature du premier niveau de la sainteté négative, c'est-à-dire celle qui se définit comme une séparation d'avec l'être de nature. Alors c'était donc ma question à propos des Shnei Yetzarim. C'est-à-dire, déjà vous entendez la réponse. Il est bien évident que le mérite apparaît lorsque la vertu s'oppose à l'être de nature. Et par conséquent, lorsqu'on arrive à servir Dieu par le Yetzer Hara, donc d'abord à la base, dans le processus élémentaire de la sublimation des tendances, je désignerai tout à l'heure dans le vocabulaire du Rav Ashlag que j'ai cité aussi, de quoi il s'agit. Alors là, nous sommes au niveau de la Kedusha Shlilit, c'est-à-dire de la Kedusha qui se définit comme Perishut et qui va se séparer, de l'être de nature. Mais il y a un niveau supérieur qu'il faut atteindre. C'est le mérite de servir Dieu avec le penchant au bien. C'est-à-dire, là nous sommes au niveau de la Kedusha positive, lorsque c'est de la nature elle-même que procède la sainteté. Bon, je reprends très brièvement l'analyse pour suivre le texte. Cette fonction du Yetzer Hara, elle est finalement de nous mener à la mort. Mais elle est nécessaire, parce que c'est elle qui assure notre appétit à la vie. C'est clair jusque-là. Et par conséquent, le commentaire que Maïmonide cite ici nous demande, bien, c'est d'arriver à inverser la finalité du Yetzer Hara, à utiliser sa force de vie pour la vie, parce que sa force de vie mène à la mort. Or, lorsque le Yetzer Hara fait son travail, et il a été créé pour faire son travail, eh bien, il est très dangereux, parce qu'il sait faire son travail, il doit le faire, il le fait bien. L'erreur vient de la personne elle-même lorsqu'elle n'arrive pas à diagnostiquer la différence qu'il faut établir entre les moyens de vivre que le Yetzer Hara me donne, mais le but auquel lui, par nature, est obligé de me mener, et ce but-là c'est la mort, et de faire servir les moyens de vie à la vie et pas à la mort. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et par conséquent, tant qu'on reste au niveau de la Kedusha négative, qui mène à l'ascétisme, eh bien, on est encore vaincu par les tentations du Yetzer Hara. Il y a quelque part dans le Midrash une indication extrêmement importante. Lorsque le Yetzer Hara, ou le Satan, si vous voulez, puisque nous venons d'apprendre qu'à des niveaux différents, c'est à la limite la même chose. Lorsque le Yetzer Hara ou le Satan se présente avec un visage de Yetzer Hara ou de Satan, il n'est pas dangereux. Mais lorsqu'il se présente avec un visage de Talmid Chacham, ou de Sadik, ou de Kadosh, là il est très dangereux. Et c'est ce niveau de la sainteté noire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais vous voyez de quoi il s'agit. C'est le niveau où on est encore empêtré dans cette difficulté d'acquérir le mérite quand la vertu et la nature ne vont pas dans le même sens. Donc au niveau du service avec le Yetzer Hara, mais un niveau plus haut, c'est le niveau du service avec le Yetzer Tov. Est-ce que c'est clair? Vous avez vu maintenant le lien entre la question et la réponse. Je vous rappelle la question pour mieux comprendre la réponse. C'est que la Torah nous dit qu'il faut servir Dieu avec les deux penchants. Et dès qu'on comprend qu'il ne suffit pas du penchant au bien, parce que ça va de soi, mais que le mérite du service vient lorsqu'on sert avec le penchant au mal, alors ce qui devient difficile, c'est de comprendre pourquoi on nous demande quand même de servir Dieu avec le penchant au bien, sous forme de mérite, et pas seulement sous forme d'inclination naturelle. C'est plus haut que servir Dieu avec le penchant au mal. Parce que c'est là que se trouve la conciliation entre la Kedusha et le monde que Dieu a créé. Simplement une indication sémantique pour préciser cette analyse, c'est que dans le verbe qui signifie créer, il y a le même mot que le verbe qui signifie être en bonne santé. La bria, la création, elle est bria, elle est saine, S-A-I-N-E. Par conséquent, il y a une sainteté de la bria, parce qu'il y a une santé de la bria, qui réclame ses droits tant qu'on reste au deuxième niveau que j'ai désigné tout à l'heure, deuxième parmi les trois, du au premier niveau, de la sainteté en lutte contre la nature. Quelque part dans Orot HaKodesh, le Rav dit très exactement ceci. Lorsque la sainteté lutte contre la nature, elle ne sait pas que c'est contre elle-même qu'elle lutte. De la même manière que lorsque la nature lutte contre la sainteté, elle ne sait pas que c'est contre elle-même qu'elle lutte. Et lorsque cette lutte dure trop longtemps, les deux la perdent.